Se sauver de la faillite comptable, c'est possible. Si les banques de dépôt peuvent fabriquer des promesses à volonté, elles doivent faire très attention à ce que celles-ci soient détruites, donc remboursées. Pourquoi? À cause du risque de faillite comptable, l'insolvabilité. De la même manière que la perte de valeur de votre voiture vous avait propulsé dans le monde terrible de la faillite comptable, les banques de dépôt sont vouées au même sort quand les crédits ne sont pas annulés. Ici, j'évite volontairement le terme de remboursement, car rien n'est véritablement rendu à la banque. Le remboursement d'un crédit correspond à une double annulation comptable, annulation de votre promesse de remboursement et annulation de la promesse de mise à disposition de billets inscrite sur votre compte. Un crédit non annulé est un crédit dont la valeur tombe à zéro. Cela dit, la promesse de mise à disposition de monnaie faite par la banque en échange de ce contrat ne disparaît pas pour autant. Cette promesse a circulé dans l'économie au fil des paiements et des virements. Elle dort probablement tranquillement quelque part sur le compte d'une entreprise ou d'un particulier. La détruire reviendrait à diminuer d'autant le montant inscrit sur le compte de la personne en question. Ce serait injuste, non? Monsieur A ne rembourse pas son crédit souscrit auprès de la banque 1 et c'est Monsieur B qui trinque. Mais si la promesse de mise à disposition de monnaie ne disparaît pas, alors la banque en question perd un actif, le contrat de prêt qui ne vaut plus rien, sans perdre de dette. Donc la taille de la colonne actif diminue, tandis que la colonne dette ne bouge pas. La banque vient de faire un pas vers la faillite comptable. Trop de crédits non remboursés et c'est l'insolvabilité assurée. Et si la banque créait de nouvelles promesses pour se sauver elle-même de la faillite? Gardez bien en tête que l'on cherche avant tout à éviter la diminution de la colonne actif par rapport à la colonne dette. Examinons un instant cette solution. La banque fait signer des contrats de prêt par des emprunteurs, ce qui provoque une augmentation de la taille de sa colonne actif. Bonne nouvelle. En retour, la banque inscrit les promesses de mise à disposition de billets sur les comptes des emprunteurs, ce qui fait augmenter sa colonne dette du même montant. Pas bonne nouvelle. Autrement dit, il ne s'est rien passé. La colonne actif est montée et la colonne dette est montée aussi. Retour à la case départ. À moins que. Et si les promesses inscrites sur les comptes des emprunteurs étaient transformées en actifs plutôt qu'en dettes? Un petit effort de concentration, ça va bien se passer. Et si les emprunteurs décidaient de faire don de leurs promesses à la banque qui vient de les créer pour eux? La situation serait la suivante. La banque a promis de mettre X euros en billets entre les mains des emprunteurs quand ils en feront la demande. Mais les emprunteurs décident de lui rendre ses promesses. Donc, les promesses disparaissent. La colonne dette de la banque diminue du montant des promesses. Voilà une excellente nouvelle. La colonne actif a augmenté du montant du prêt. Les emprunteurs se sont engagés à rembourser en payant des intérêts. Mais ils ont fait annuler ce que la banque leur devait. La colonne dette a augmenté l'espace d'un instant, puis est retournée à sa taille originelle. Forcément, face à un tel tour de passe-passe, la question est, mais pourquoi les emprunteurs rendraient les promesses à la banque qui vient de les créer pour eux? Les voilà obligés de rembourser une somme qu'ils viennent d'abandonner. Ah, mais ils n'ont rien abandonné du tout. Ils ont fait don de leurs promesses en échange d'une autre forme de promesse, celle de la participation aux bénéfices de la banque par le biais de dividendes. La banque a fabriqué des actions, titres de propriété, qu'elle a distribuées aux emprunteurs, désormais également actionnaires, en échange de l'annulation de leurs promesses. Récapitulons. 1. Les emprunteurs promettent de rembourser 100. La colonne actif de la banque augmente de 100. 2. En échange, ils reçoivent une promesse de la banque qui vaut 100. La colonne dette de la banque augmente de 100. 3. Ils annulent cette promesse et reçoivent en échange des actions. La colonne dette de la banque diminue de 100. 4. Cela signifie qu'ils deviennent actionnaires de l'entreprise. Ils auront le droit de toucher une partie des bénéfices de cette dernière sous la forme de dividendes. La colonne capital de la banque augmente de 100. J'ai l'impression de vous voir froncer les sourcils. Vous pensez que c'est impossible? Regardez plutôt. En février 2008, QIA, le fonds souverain du Qatar, un fonds souverain est un fonds d'investissement qui gère l'épargne d'un gouvernement, injecte 10 milliards de francs suisses au capital de la banque universelle Crédit Suisse. On parle de banque universelle quand celle-ci cumule les activités de banque d'investissement et de banque commerciale. Ces 10 milliards proviennent d'un emprunt que QIA vient de réaliser auprès de Crédit Suisse. Crédit Suisse a donc créé de la monnaie dans le cadre d'un prêt à QIA, une promesse est créée, pour que ce dernier s'empresse de l'utiliser pour lui faire une injection, un terme très mal choisi dans ce cas, de capital. La promesse est supprimée. Évidemment, cette solution suppose de trouver un client aux épaules suffisamment solides pour être capable d'emprunter la somme nécessaire au sauvetage de la banque. Tout le monde ne peut pas emprunter 10 milliards de francs suisses. Et si vous vous demandez pourquoi un fonds souverain ou n'importe quel autre type de fonds accepterait de sauver une banque de la faillite, la réponse est évidemment financière. Crédit Suisse a intégré au contrat une carotte suffisamment intéressante pour que QIA accepte des dividendes garantis. Les accords de Bâle. Puisque ce qui provoque la faillite des banques, c'est le fait que la colonne actif perde de la valeur par rapport à celle intitulée dette, rappel, la colonne passif contient à la fois la dette et le capital. Pourquoi ne pas faire en sorte que cette fameuse colonne active soit la plus haute possible par rapport à celle de la dette? Pour cela, il faut exiger que les banques financent leurs activités avec davantage de capital et moins de dettes ou promesses. En effet, le capital agit en quelque sorte comme un amortisseur. C'est lui qui absorbe la perte de valeur de la colonne active, les pertes comptables, jusqu'à ce que celle-ci arrive au même niveau que celle de la dette. L'idée derrière les accords de Bâle est d'imposer aux banques de posséder un montant plus important de capital, soit une différence plus marquée entre la colonne actif et la colonne dette, afin que la faillite n'advienne pas aussi rapidement en cas de baisse des prix sur les marchés. Les accords de Bâle obligent les banques à davantage de capitalisation. Posons l'exemple d'une augmentation de capitalisation de 7% à 10%. Si la situation de chaque banque est différente, l'ordre de grandeur de l'augmentation de capital requise par les accords de Bâle est ici respecté. On ne demande pas à des banques qui ont l'habitude d'utiliser un maximum de dettes de subitement financer 50% de leurs activités avec du capital, même s'il est certain que cela les rendrait beaucoup plus sûrs. Nous verrons que cela est lié à une histoire d'effet de levier. Le cas particulier du bank run. Qu'est-ce qu'un bank run? C'est le moment où, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, de nombreux clients d'une banque de dépôt sont convaincus que cette dernière se rapproche dangereusement d'une faillite comptable. Ainsi, par peur de perdre tout ou partie des promesses inscrites sur leur compte, ils se rendent aux distributeurs de billets ou transfèrent leurs promesses vers d'autres banques. Dans les deux cas, la banque en question doit urgemment mettre la main sur de la monnaie scripturale venant d'autres banques ou sur de la monnaie centrale. La première méthode permet de compenser le flux de promesses sortantes et ainsi de réduire le déficit de flux entrant, voire peut-être de l'annuler. La seconde méthode, complémentaire de la première, consiste à sourcer suffisamment de monnaie centrale pour régler le déficit de flux entrant. Ici, pas question de colonne active qui deviendrait plus petite que la colonne dette. Le bank run est un problème de liquidité. La banque doit trouver très rapidement une grande quantité de monnaie, scripturale ou centrale, pour équilibrer ses flux. Si cette activité d'équilibrage des flux fait partie de la vie de tous les jours d'une banque de dépôt, le bank run se différencie de la normalité par la masse de flux sortants. Ainsi, en cas de bankrun, la banque passe son temps à chercher de la monnaie partout où elle peut la trouver, sur les marchés financiers, auprès de l'État ou auprès de la banque centrale, afin de compenser l'hémorragie. Si elle n'y arrive pas, elle fait faillite. Le sauvetage des banques entre nécessité, idéologie et pouvoir politique. Nous l'avons déjà expliqué, quand une banque de dépôt fait faillite, c'est la monnaie scripturale des épargnants qui est directement menacée. Rappelez-vous, la monnaie scripturale est composée de promesses faites par les banques. Si les banques coulent, les promesses disparaissent. On comprend alors pourquoi les gouvernements et les banques centrales sont enclins à vouloir les sauver. La question à laquelle je souhaiterais brièvement répondre ici est: comment se décide le mode de sauvetage des banques? Par l'intervention de l'État ou de la banque centrale? En général, l'État intervient plutôt quand les banques ont besoin d'une injection de capital, faillite comptable, tandis que les banques centrales fournissent les liquidités en cas de bankrun, illiquidité. En effet, il est plutôt malvenu pour une banque centrale d'entrer au capital des banques et donc d'en devenir actionnaire. Tout est question d'idéologie ici. Les banques centrales ne sont pas supposées participer aux prises de décision d'entreprises privées, mais simplement contrôler le niveau de l'inflation. Par ailleurs, l'État n'est pas non plus supposé s'occuper des affaires des entreprises privées, mais quand c'est toute l'économie qui risque de s'effondrer, parce que la faillite des banques provoque la suppression de la monnaie, il faut bien trouver des solutions. Bref, tout cela pour expliquer que tout est plus ou moins possible. Cependant, il faut bien garder à l'esprit que le pouvoir de la Banque centrale est absolument ultime. Parce qu'elle crée la monnaie et qu'elle ne peut pas faire faillite, la Banque centrale peut, sur le papier, sauver n'importe quelle entreprise de n'importe quelle situation. La grande majorité des décideurs politiques et financiers préfèrent néanmoins utiliser le filet de sécurité de la Banque centrale avec parcimonie, car cette dernière est tellement puissante qu'il ne faudrait pas que la population réalise qu'elle peut les sortir de toutes les mauvaises situations sans aucune conséquence financière. Il faut également comprendre que la décision de sauvetage de n'importe quelle entreprise repose sur un jeu de pouvoir très complexe. Le président de la Banque centrale est confronté aux instances qui régulent son action, elles-mêmes composées de technocrates qui cherchent à faire avancer leur carrière, tandis que les politiques jouent des coudes pour résoudre le problème d'une manière qui leur permettra de se faire réélire, et que les dirigeants des entreprises en faillite et leurs actionnaires, propriétaires, utilisent leur réseau pour faire aboutir la solution qui les avantage le plus. Sans oublier le fait que les économistes qui conseillent les décideurs sont très loin d'être tous d'accord entre eux. Bref, le sauvetage des entreprises est un vaste jeu de pouvoir et d'intérêt que chacun, selon ses compétences, sa sensibilité et son degré de connaissance de l'économie, cherche à exploiter.